Et le journal est présenté par Anne Lorchouin.
Bonjour à toutes et à tous. Retour ce matin sur les festivités du 14 juillet, émaillées d'incidents violents pendant et après le défilé militaire des Champs-Élysées. Sans arborer leurs chasubles, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont voulu montrer au chef de l'État qu'ils étaient toujours mobilisés. Résultat, de nombreuses interpellations ont eu lieu, 180 au total, dont trois figures du mouvement. Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez ont été placés en garde à vue, puis relâchés pour organisation d'une manifestation illicite. Éric Drouet, lui, a été interpellé hier matin alors qu'il était sur les champs et placé en garde à vue pour rébellion. Il a été libéré en fin d'après-midi. Son avocat, maître Kéops Lara, explique qu'Éric Drouet a passé sans problème les barrages filtrants aux abords des Champs-Élysées. Il a été interpellé au moment où Emmanuel Macron allait passer. Et pour cet avocat, cette interpellation est injustifiée. Écoutez-le.
C'était pour rébellion parce que malheureusement, c'est le seul motif qu'on a cru devoir trouver pour écarter Éric Drouet du défilé. Ok, il assistait en tant que simple spectateur. Et évidemment, on a créé de toutes pièces cette prétendue rébellion qui serait une résistance violente à l'interpellation qui n'y a jamais eu lieu. Vous avez des vidéos de son interpellation par des passants, voire même des médias qui étaient présents et qui ont pu filmer cela. La violence, s'il y a eu, ça a été contre Éric Drouet, certainement pas de sa part.
Du côté policier, on explique que la venue de ces figures du mouvement n'était pas une surprise. Elle était préparée, voire attendue. Écoutez David Michaud, secrétaire national CRS pour l'UNSA Police.
La situation, elle a été gérée, on va dire, normalement pour nous. Alors, la faille qu'on a pu connaître, c'était que le moment de l'interpellation et surtout de l'action de la police s'est faite au moment où on avait la relève des forces, c'est-à-dire que le dispositif du défilé était levé et on avait justement ce laps de temps où les forces arrivaient, puisque les équipes du matin étaient relevées par les après-midi, et c'est à ce moment-là, en fait, on a eu les débordements. On a eu aussi des compagnies qui ont été obligées de doubler leurs vacations puisqu'on ne pouvait pas du tout lever le dispositif pour conserver l'ordre public.
Au total, hier, 282 interpellations ont eu lieu partout en France, dont la majorité à Paris. Les avocats font entendre leur voix dans la perspective du G7 prévu du 24 au 26 août prochain à Biarritz. Pour la première fois, ils sont reconnus comme un groupe d'engagement et ils y présenteront la résolution commune que les professionnels du droit des 7 pays concernés ont élaboré ensemble au cours d'un G7 des avocats qui s'est déroulé à Paris. Au total, 19 propositions sur des thématiques différentes, de la lutte contre les inégalités à la protection de l'environnement, ainsi que deux projets de résolution spécifiques. Écoutez Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux.
Nous représentons 1 800 000 avocats à travers le monde, donc nous pouvons porter une parole forte. Et je pense que même lorsque certains sujets sont sensibles, je pense par exemple à la résolution portée par mon homologue japonais sur l'abolition de la peine de mort. C'est un événement incroyable. Ça fait des années que nous essayons de faire avancer ce débat. Lorsque, à l'occasion d'une réunion comme celle-là, nous parvenons à un accord de 6 pays sur les 7, hein, de 6 pays pour dire oui, il faut que ce débat devienne public. Lorsque mon homologue japonais dit nous avons la responsabilité de ces débats sociétaux, je dis que c'est formidable, c'est le rôle de l'avocat. Nous ne sommes pas tous d'accord, forcément, au sein de nos professions, sur tout. Et c'est logique, puisque nous sommes le reflet de la société. Mais nous avons une responsabilité, qui est celle de faire porter les débats, de les porter sur la place publique, de dire aux autorités publiques, ces débats doivent avoir lieu.
Des propos recueillis par Florence Turm. En Afrique du Sud, c'est l'heure des explications. L'ex-président Jacob Zuma, poussé à la démission l'année dernière à cause de plusieurs scandales de corruption, va comparaître devant une commission d'enquête. Il est accusé d'avoir généralisé la corruption au sommet de l'État sud-africain, notamment via sa proximité avec la famille indienne des Gupta, avec laquelle il aurait détourné des milliards d'euros. Décollage raté, justement, pour la mission lunaire indienne. L'Inde devait lancer cette nuit sa seconde mission lunaire qui doit lui permettre d'être le quatrième pays à alunir derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais le lancement de la fusée a été avorté à la dernière minute à cause d'une erreur technique. Les précisions de notre correspondant en Inde, Antoine Guinard.
La déception aura été à la hauteur du battage médiatique de ces derniers jours. La mission Chandrayaan 2 a été reportée moins d'une heure avant le décollage de la fusée dans le sud de l'Inde, initialement prévue à 2h51 heure locale ce lundi. L'ISRO, l'agence de recherche spatiale indienne, fait état, je cite, d'un problème technique et affirme qu'une nouvelle date de lancement sera bientôt annoncée. Cette mission lunaire non habitée sera la deuxième pour l'Inde qui avait envoyé une sonde sur la Lune en 2008 avec Chandrayaan 1 qui avait permis la découverte de molécules d'eau au pôle sud. Cette fois-ci, l'objectif est de permettre à un véhicule robotisé d'alunir dès septembre. Depuis une dizaine d'années, l'Inde affiche de grandes ambitions dans le domaine spatial et démontre qu'elle a les moyens de ses ambitions. Après le succès de Chandrayaan 1, l'ISRO avait placé une sonde en orbite de Mars en 2014, dès sa première tentative, un exploit en soi, et pour un coût 10 fois inférieur à ceux de la NASA américaine pour la même mission. En décembre dernier, l'Inde a annoncé qu'elle allait envoyer 3 astronautes dans l'espace d'ici 3 ans, rejoignant là encore un cercle très restreint.
Antoine Guinard. Des résidus de crème solaire, il y en aura cet été dans les océans et dans nos assiettes. Il n'y a pas que du plastique dans les crevettes ou les coquillages que nous mangeons. Il y a également, il peut y avoir en tout cas, des résidus, donc des traces de crème solaire après la baignade ou la douche. Ces résidus se retrouvent dans la mer, mais aussi dans les réseaux d'eau potable et cela préoccupe certains chercheurs spécialistes du milieu marin. Non seulement certaines molécules présentes dans ces crèmes sont dangereuses pour les océans, mais elles risquent aussi de troubler la chaîne alimentaire. Célia Kiyret.
Oxybenzone, octocrylène, ces molécules au nom barbare se cachent dans nos crèmes solaires, dans les filtres anti-UV. Or, ces molécules sont toxiques pour les organismes marins. Elles attaquent les coraux. Elles ont été interdites à Hawaï et dans un archipel du Pacifique. Mais elles sont toujours bien présentes dans de nombreuses crèmes et elles se fixent sur le sable ou les coquillages. Philippe Le Baron est professeur de microbiologie au laboratoire océanologique de Banyuls-sur-Mer.
Ce sont vraiment des molécules qui sont dangereuses pour l'ensemble des organismes vivants, y compris l'homme. Le risque, c'est qu'on transmette à l'homme un certain nombre de ces molécules tout simplement par la chaîne alimentaire et la consommation d'un certain nombre de produits. Alors ça peut se faire au niveau des crevettes par exemple qui sont consommées par l'homme, ça peut se faire au niveau des moules, des huîtres, des poissons. Tous les organismes consommés par l'homme sont susceptibles d'être impactés.
Et en effet, ces filtres se retrouvent en quantité assez importante dans les eaux de baignade. Jérôme Labille, chercheur au CNRS, l'a observé sur une plage de Marseille.
On a réalisé des campagnes de terrain justement pour aller échantillonner des eaux de plage et à la fois compter le nombre d'usagers sur la plage et en même temps en face analyser l'eau de leur bain. 20 à 30% des filtres UV qui sont consommés sur la plage sont retrouvés en suspension dans l'eau ou flottant à la surface.
Et même si ces recherches sont à affiner, certains spécialistes attendent déjà des pouvoirs publics une interdiction de certains composés pour les remplacer par d'autres filtres moins nocifs pour l'environnement.
Un mot de météo, il fera beau ce lundi sur presque tout le pays, sauf sur le sud-est où des orages sont annoncés. Météo France appelle à la prudence. La Haute-Corse est placée en vigilance orange. Partout ailleurs, la journée sera estivale. Les températures de 9 à 22 degrés ce matin, de 20 à 34 degrés cet après-midi. Ces journaux ont été réalisés par Emmanuel Faucillon, François-Charles Domergue et Maxime Vanier. Prochain journal à 12h30, ce sera avec Lisa Guyenne. En attendant, excellente matinée sur France Culture.